Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Une grande partie de ce journal sera bien sûr consacrée à des thématiques liées à l'agriculture et actualité oblige à des sujets relevant de préoccupations sanitaires. Anne-Laure Chouin, bonsoir. Virus, maladies et autres nuisibles sont le quotidien des agriculteurs depuis longtemps et ce sera le sujet de votre dossier ce soir.
Il a fallu trouver des moyens de lutter contre des nuisibles qui trouvent largement de quoi se propager. On en parlera avec notre invité Philippe Regnault, directeur du laboratoire Santé des végétaux à l'ANSES.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et puis l'enquête de cette édition sera consacrée aux mesures prises dans les abattoirs depuis les révélations en série sur des cas de maltraitance avec Théo Hetch. Également dans ce journal, un point de situation sur le front du coronavirus, un regard sur la situation en Syrie et puis les comptes de la SNCF plombés visiblement par les effets de la grève contre la réforme des retraites. Mais débutons ce journal avec les conséquences toujours plus importantes de l'épidémie de coronavirus à travers le monde. En France, tout d'abord, quelques 2000 élèves sont priés de rester chez eux pour éviter tout risque de transmission, un chiffre qui est susceptible d'évoluer à la hausse dès la semaine prochaine, a prévenu tout à l'heure le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. En Haute-Savoie, le maire de La Balme de Salingy a pris un arrêté pour fermer crèches, écoles et centres de loisirs jusqu'au 14 mars. Sur l'ensemble du pays, le nombre de personnes infectées a connu hier une augmentation sensible avec 20 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Parmi eux figure un regroupement de 12 cas liés aux deux malades identifiés dans l'Oise. Rappelons qu'un enseignant de Crépy-en-Valois est décédé des suites d'une contamination au coronavirus. Dans le département de l'Oise, où en est l'enquête pour tenter de retrouver le patient zéro? On voit ça maintenant avec Margot Delpierre.
C'est une enquête vraiment policière, expliquait mercredi le directeur général de la santé. On sait qu'aucun des deux hommes ne revenait d'une zone dite à risque. On sait aussi que les deux patients vivaient et travaillaient dans un triangle de 40 km. Les enquêteurs de Santé publique France tentent de retracer le parcours de cet enseignant, de son arrêt de travail mi-février à sa mort à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et celui du chauffeur de 55 ans, hospitalisé à Amiens après avoir été admis à Compiègne. Il procède à ce qu'on appelle un contact tracing. Il questionne l'entourage du patient, toutes les personnes qu'il a pu croiser pour repérer celles qui sont éventuellement contaminées. Le but, c'est de casser la chaîne de transmission. Les médecins épidémiologistes peuvent rapidement se retrouver avec des dizaines de personnes à contacter. Elles sont ensuite classées selon leur niveau de risque, de nul à élevé. Élevé correspond à des contacts étroits, à moins d'un mètre et pendant au moins un quart d'heure. Dans ce cas-là, on vous demandera de rester chez vous, confiné, et de prendre votre température deux fois par jour. Les autorités sanitaires doivent notamment retrouver les médecins généralistes des patients contaminés. L'un de ces professionnels de santé vient d'être identifié. Il s'agit d'une femme de 58 ans. Elle est infectée par le coronavirus et hospitalisée en ce moment au CHU de Nantes, mais son état est rassurant. Les recherches continuent car le dispositif, s'il fonctionne bien, devient plus difficile à chaque fois que le nombre de cas augmente.
Margot Delpierre, le gouvernement français a annoncé tout à l'heure de nouvelles mesures pour aider les entreprises et les salariés. Pour les entreprises, le coronavirus sera considéré désormais comme un cas de force majeure et des possibilités de recours à l'activité partielle existeront. À l'étranger, la bourse de New York chute à l'ouverture une nouvelle fois dans ses premiers échanges aujourd'hui. L'indice Dow Jones perdait tout à l'heure 3%. Idem pour les bourses européennes. À la clôture, cette fois, moins 3,86% à Francfort, moins 3,39% à Londres et moins 3,38% pour le CAC 40 à Paris. Alors que de premiers cas de contamination au coronavirus ont été recensés en Islande, au Mexique et au Nigeria, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a rappelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée de ce Covid-19. L'Iran a fait état de 8 morts aujourd'hui parmi les 143 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures, portant le bilan dans ce pays à 34 morts et le nombre de cas constaté à 388. Mais c'est en Corée du Sud que l'inquiétude est la plus forte. Les explications d'Élise Delève.
Plus de la moitié de ces cas ont été enregistrés au même endroit, dans la ville de Daegu, quatrième plus grande du pays. C'est parmi les membres d'une secte chrétienne que le virus s'est propagé. Une femme infectée qui se serait rendue à de nombreuses messes géantes. La secte compte en tout 275 000 fidèles. Son chef refuse pour l'instant d'aider les autorités et de donner les noms des membres. Depuis quelques jours, les artères principales de la ville sont vides, les magasins et les restaurants ont préféré fermer. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux en cas de symptômes, mais contrairement à la Chine, aucun cordon sanitaire n'a été placé autour de la ville. Autre conséquence, Hyundai, le constructeur automobile, a fermé l'une de ses plus grandes usines à Ulsan, à une heure de route de Daegu, une des employées ayant été testée positive au coronavirus. Et puis le phénomène BTS, les stars de la musique K-pop viennent d'annoncer qu'elles annulent leur série de concerts à Séoul. Cela aurait rassemblé plus de 200 000 spectateurs.
Élise Delève, en Suisse, tout événement rassemblant plus de 1000 personnes est interdit jusqu'au 15 mars et le salon de l'automobile a dû être annulé, annonce faite aujourd'hui. On a appris également tout à l'heure l'annulation du prochain défilé d'Agnès B prévu lundi à Paris. Ajoutons enfin une réunion qui est prévue des ministres de la Santé de l'Union Européenne. Ce sera vendredi prochain, le 6 mars, sur cette épidémie de coronavirus. Les virus, maladies et nuisibles sont des contraintes avec lesquelles le monde agricole vit et sait vivre depuis longtemps, évidemment. Anne-Laure Choin, vous êtes ici chez vous au Salon de l'agriculture que vous arpentez depuis quelques années. Bonsoir également à notre invité ici en direct de ce salon, Philippe Regnault, directeur du laboratoire santé végétale à l'ANSES. Anne-Laure, vous avez arpenté à nouveau cette année les allées du salon pour voir comment les professionnels du monde agricole traitent cette question de la maladie, du virus.
Oui, car dans le monde végétal, les virus semblent préférer les zones cultivées aux zones non cultivées. Et dans le monde de l'élevage, ces virus réapparaissent aussi par épisodes. Ce sont d'ailleurs les vétérinaires qui sont souvent en première ligne pour en déceler l'arrivée. Écoutez le docteur Laurent Perrin, président du syndicat national des vétérinaires libéraux.
On a eu les épisodes d'influenza aviaire, où on était sur des virus qui avaient muté, c'est des nouveaux virus. Mais on a aussi en ce moment à gérer la fièvre porcine africaine, qui est un virus bien connu et qui réapparaît actuellement. En France, on n'en a pas pour l'instant, mais c'est aux portes de la France qu'on est au bord de la Belgique, avec des foyers en Belgique.
Alors ces virus viennent-ils de la massification des élevages qui facilite leur propagation ou plus de la mondialisation de l'agriculture et notamment dans le transport des animaux? La réponse de Laurent Perrin.
Alors c'est beaucoup plus un problème de mondialisation. Et alors mondialisation effectivement de l'agriculture, c'était le cas pour la fièvre aphteuse, puisque c'est l'import d'animaux. Mais par contre, par exemple pour la fièvre porcine africaine, on est sur une mondialisation des transports. Et en fait, comme on sait que la fièvre porcine africaine, le virus persiste, y compris dans les denrées alimentaires, y compris dans la charcuterie, on suppose que là, c'est un foyer qui apparaît avec les transports internationaux et sans doute des restes de repas de chauffeurs de camions qui venaient de zones infectées.
Et parfois, le seul moyen d'éradiquer ces types de virus est l'abattage du cheptel, solution toujours crève-cœur pour les agriculteurs malgré les indemnisations.
Alors, est-ce que la question se pose dans les mêmes termes pour les cultures et pour les grandes cultures ?
Il arrive aussi, effectivement, que ces virus, comme celui qui attaque en ce moment les plants de tomates dans le Finistère, arrivent de l'étranger après un long voyage dans des palettes ou des emballages, on ne sait pas très bien. Et tout comme les vaccins avec les animaux, les pesticides ont longtemps et jouent toujours d'ailleurs le rôle de protecteur des cultures contre les maladies. Dans ce contexte, la question de la transition agroécologique se pose puisqu'elle implique forcément moins de traitements chimiques. Écoutez Philippe Dubief, céréalier en Côte d'Or et président de Passion Céréales.
Lorsqu'on veut faire cette transition agroécologique, eh bien, on prend davantage de risques et ces risques peuvent se mesurer parfois par l'apparition de quelques foyers d'ergots. Lorsqu'ils restent maîtrisés, tout va bien. C'est la raison pour laquelle il faut maintenir cette vigilance. C'est un petit peu comme la lèpre ou la peste ou la rougeole. Si on relâche un petit peu les vaccins, eh bien, on verra apparaître davantage de rougeole. Ben là, c'est un peu pareil. Ça ne nous empêche pas d'évoluer, surtout pas. Bien au contraire, on doit le faire différemment, c'est-à-dire avec de la technologie, avec une agriculture de précision qui nous permettra d'être à la fois prédictive et mesurée.
Alors Anne-Laure Choin, vous allez rester avec nous pour poser quelques questions maintenant à notre invité, Philippe Regnault, directeur de la santé des végétaux à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement. Est-ce que, Philippe Regnault, dans le monde végétal, la façon de traiter les nuisibles, les maladies a évolué et comment ces derniers temps ?
Bonsoir à vous. Alors, ce qui a surtout beaucoup évolué ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne les flux de végétaux à travers le monde. Ça a été mentionné par certains des intervenants précédemment. Beaucoup, de plus en plus de plantes, de plus en plus diversifiées, en quantité de plus en plus importante, voyagent à travers le monde. si on ajoute à cela certaines évolutions climatiques, si on ajoute à cela effectivement des modifications, des évolutions de nos modes de vie, de consommation et des modifications, des évolutions de nos modes de production, eh bien on a tout un tas de facteurs qui peuvent avoir tendance à favoriser l'apparition de nouvelles maladies qui n'étaient pas encore présentes dans le paysage des agro-écosystèmes de façon globale.
Alors avec justement, prenons l'exemple de ce fameux virus de la tomate dont on ne sait pas encore bien comment il est arrivé. Comment on fait face à ce genre de virus? On n'a pas de traitement, est-ce qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières pour les aliments?
On est effectivement face à un scénario qui est très particulier, bien identifié, et on est vraiment dans le cœur de nos missions au sein de l'ANSES de ce point de vue-là, puisque ce virus est un virus émergent. Ce virus était complètement inconnu jusqu'en 2014. Il est apparu en 2014 au Moyen-Orient, en Israël, en 2015 en Jordanie. C'est seulement en 2018 qu'il est apparu en Europe, mais dans un nombre de pays limitrophes de la France relativement important. Et puis malheureusement, ça y est, il y a eu un foyer qui a été identifié sur le territoire français. Donc face à ces émergences, c'est très clair, il faut absolument agir vite et bien et viser un objectif d'éradication. Quand un foyer est détecté, il faut l'isoler, il faut arracher les plantes, il faut les détruire, organiser ce qu'on appelle un vide sanitaire, de façon à ce que lorsqu'on réimplante la culture, tout risque de réinfection est absolument évité.
C'est la version végétale de l'abattage de cheptel.
Si vous voulez, c'est effectivement une version assez comparable de ce point de vue-là.
Alors, est-ce qu'on peut aussi revenir sur peut-être la massification parfois d'une seule variété de production et donc la facilitation des virus? Alors, je prends l'exemple de la banane Cavendish qui est attaquée par un virus. Et il se trouve que cette banane, cette sorte de banane, c'est celle qu'on a massifiée, dont on a massifié la production. Et quand un virus s'y attaque, eh ben, forcément, c'est compliqué d'en venir à bout.
Pour être un tout petit peu plus précis, cette maladie du bananier est en fait provoquée par un champignon, mais bon, on reste
oui,
effectivement,
c'est pas un virus, effectivement.
On reste dans le domaine de l'invisible à l'œil nu, hein, de ce qui effectivement en fait un problème de la même nature. Cette variété Cavendish que vous mentionnez, qui représente une très grande majorité de variétés de bananes que nous consommons, est effectivement sensible à une souche émergente de cette maladie, pourtant déjà bien connue, qu'on appelle la maladie de Panama. Donc c'est vrai que tant qu'on a une variété qui est résistante à cette maladie, tout va bien. Et puis un jour, sous l'effet de l'environnement, sous l'effet de l'intensification des flux de matériel végétal, pas forcément toujours bien contrôlé, eh bien va apparaître une nouvelle souche qui va se trouver adaptée à l'infection de cette variété qui est largement cultivée.
Et réintroduire de la diversité dans les variétés, ça ne peut pas être une solution d'éviter aussi des propagations?
Absolument, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est comme ça qu'est apparue la culture à grande échelle de la variété Cavendish, puisqu'elle était résistante à la variété qui précédemment était sensible à la première souche de cette maladie de Panama.
Alors, quel rôle peut jouer, par exemple, l'agroécologie aussi dans la prévention de ces nuisibles, notamment par ce qu'on appelle le biocontrôle? Vous pouvez peut-être expliquer en quoi ça consiste?
Alors, peut-être avant d'aborder le point particulier du biocontrôle, l'agroécologie, c'est vrai qu'elle repose, au moins partiellement, sur un lien relativement rapproché du producteur avec sa parcelle, avec son exploitation. Donc, il y a forcément une démarche d'observation qui est relativement importante dans ce concept. Et plus on observe, mieux on observe, mieux on sera en capacité donc d'observer l'émergence, l'apparition de premiers foyers. Et ça, c'est absolument essentiel dans le dispositif. Après, effectivement, le biocontrôle, il a sa place, j'ai envie de dire, en deuxième rideau. Si malheureusement, la maladie a tendance à s'établir, à se distribuer dans l'environnement de façon plus large, eh bien, on a tout intérêt à utiliser des moyens de lutte qui seront le moins impactants possible vis-à-vis de l'environnement.
On me dit juste un mot peut-être pour les auditeurs. Le biocontrôle, c'est on tue des nuisibles via d'autres nuisibles, c'est ça?
Alors, ça peut être ça. C'est globalement utiliser des mécanismes d'inspiration naturelle pour lutter effectivement contre les organismes nuisibles.
Merci. Philippe Regnault, directeur de la santé des végétaux à l'ANSES. Merci également.
Merci à vous.
Anne-Laure Choin, la suite du journal de France Culture. Toujours en direct du Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris, où Didier Guillaume, tout à l'heure, a annoncé la suspension de l'agrément d'un abattoir de veaux en Dordogne. Le ministre de l'Agriculture fait suite avec cette annonce à la publication d'une vidéo de l'association L214 dénonçant ce qu'elle appelait des infractions multiples au sein de cet abattoir. À chaque nouvelle vidéo de L214, c'est ainsi. Le ministère promet des contrôles et tente de rassurer. Les dernières grandes mesures destinées à améliorer autant que faire se peut le bien-être des animaux se trouvaient dans la loi alimentation il y a un peu plus d'un an. Mais pour la cellule d'investigation de Radio France, Théo Wetsch a étudié ces mesures et s'est rendu compte, un an après, qu'aucune ne fonctionne véritablement.
Oui, de l'avis même des personnes au cœur du système. Prenons la question des référents en protection animale. Depuis un an et cette loi alimentation, chaque abattoir doit désigner un salarié chargé de faire remonter et dénoncer les mauvaises pratiques. Sauf que dans les faits, il est très dur de le faire. La direction parfois met la pression, voire les sanctionne. C'est ce que m'a raconté cet ancien référent d'un abattoir d'Ille-et-Vilaine.
Quand on emmène les bêtes à la mort, logiquement, on devrait les emmener deux par deux, trois, quatre, pas plus. Sauf qu'on a des cadences infernales. Et là, on sert des aiguillons électriques, on sert des bâtons. Ça beau être dénoncé, on va leur dire, toi, tu te tais. Moi, je n'aimais pas le désossage, je n'ai jamais aimé le désossage. On me disait, si tu ouvres ta bouche, tu vas aller faire du désossage.
On vous a déjà mis au désossage suite à des choses que vous aviez dit.
Oui, oui, c'était constamment que j'allais sur... j'étais constamment puni, hop, j'allais de l'autre côté.
Donc les référents en protection animale seraient peu efficaces, Théo, mais le gouvernement mise aussi sur la vidéo pour faire changer les choses.
Oui, une cinquantaine d'établissements sont déjà équipés de caméras aujourd'hui, mais la plupart servent à la sécurité et ne filment pas la chaîne d'abattage. C'était ce que voulait changer la loi alimentation avec une expérimentation vidéo au poste de saignée. Un appel à candidature a été lancé, sauf que plus d'un an après le lancement, et bien seul, trois abattoirs sont candidats sur près de 900 en France. Et preuve que le projet patine, on est même allé démarcher François Vanier, président d'un abattoir en Haute-Vienne, déjà équipé de la vidéosurveillance depuis 15 ans. Écoutez ce qu'il m'a raconté.
On avait été contacté par des agents du ministère de l'Agriculture et plus précisément, on a été relancé par les agents qui sont en relation avec nous au niveau départemental et sur le fait qu'on pouvait faire acte de candidature. Et enfin, nous, on a été sollicité à plusieurs reprises. Donc nous n'avons pas souhaité le faire puisque on a déjà mis en place la vidéosurveillance dans notre abattoir et on considère que sans doute d'autres abattoirs pouvaient être candidats.
Sans succès donc, on l'a vu. Je précise que le gouvernement a lancé un troisième dispositif, un site internet intitulé Alim Confiance, qui délivre des notes en fonction des inspections réalisées par les services vétérinaires. Mais là aussi, il semble y avoir des bugs. Ainsi, l'abattoir en Dordogne, qui a récemment été dénoncé dans une vidéo de L214, il avait sur ce site la mention très satisfaisant.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Théo ?
Le souci, c'est que vous pouvez avoir un contrôle un jour et passer à côté de mauvaises pratiques, car il manque des vétérinaires. C'est ce que pense Laurent Perrin, le président du syndicat national des vétérinaires libéraux. Je l'ai rencontré au salon de l'agriculture.
Le jour où vous êtes en inspection, ça se passe comme vous le voyez ce jour-là. Ça ne préjuge pas éventuellement de cadences plus importantes ou de problèmes techniques ou de personnel. Il est évident que dans des abattages de très gros volumes comme ça, on a de temps en temps des accidents. Avoir un contrôle permanent au poste de saignée demanderait des vétérinaires. Actuellement, les vétérinaires ne peuvent pas être aux deux bouts de la chaîne.
Or, on observe plutôt la tendance inverse. En 2019, les contrôles vétérinaires inopinés et surtout complets ont diminué de 30%.
Voilà, Théo Hetch, dont l'enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. La SNCF a fait ses comptes pour 2019, année marquée par la grève contre la réforme des retraites. La compagnie ferroviaire a publié aujourd'hui ses résultats pour l'exercice tout juste clos. Bonsoir Anne-Laure Jumet. Et ils sont dans le rouge, ces comptes.
Oui, au total, la grève a pesé sur son chiffre d'affaires à hauteur d'un milliard d'euros, dont 690 millions sur l'année 2019. Sans l'impact du mouvement social, la SNCF estime qu'elle aurait affiché un bénéfice de 300 millions d'euros. Mais la grève est donc passée par là et c'est un résultat récurrent dans le rouge que la compagnie présente aujourd'hui, moins 300 millions d'euros. Alors cette année, le groupe va faire des économies pour tenter de limiter l'impact sur les comptes. Un plan de 200 millions d'euros que nous détaille son PDG Jean-Pierre Farandou.
D'abord, et c'est la partie la plus motivante, c'est aller conquérir des clients, être encore plus persuasif en expliquant aux Français qu'il faut prendre le train. Donc nous attendons une trentaine de millions supplémentaires en chiffre d'affaires, notamment voyageurs. Nous pensons que c'est possible. On voit qu'il y a un gros engouement du train en ce moment. En France, en Europe, les gens ont davantage envie de prendre le train. Nous allons aussi faire un travail de décalage de projets. Ça peut être des projets informatiques, ça peut être des projets de rénovation de matériel qu'on peut décaler dans le temps. Voilà, c'est un ajustement de quelques dizaines de millions d'euros pour nous permettre de compenser au maximum l'impact des grèves sur les comptes à venir de l'année 2020.
Le niveau d'investissement, lui, restera élevé. 11 milliards d'euros pour moderniser les réseaux. Le ferroviaire a de l'avenir, acclamé Jean-Pierre Farandou, ajoutant « c'est l'effet Greta Thunberg », la jeune activiste du climat, en référence notamment à ces voyageurs qui refusent aujourd'hui de prendre l'avion pour protéger l'environnement.
Merci Anne-Laure Jumet. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce soir une réunion d'urgence sur la situation dans le nord-ouest de la Syrie après la mort de 33 militaires turcs lors de raids syriens. Selon une ONG, des bombardements de représailles menés par l'armée turque ont eu 20 combattants du régime syrien depuis hier et la Turquie pilonne toujours des positions tenues par des fidèles de Bachar el-Assad. La Turquie menace toujours également d'ouvrir ses frontières aux migrants pour tenter de faire pression sur l'Europe. Mais l'opération a tout l'air d'une campagne de communication. Anand Lower.
Aucun responsable turc n'a annoncé publiquement que les frontières de la Turquie avec l'Union européenne, en l'occurrence avec la Grèce et la Bulgarie, étaient désormais grandes ouvertes côté turc. En réalité, les autorités laissent les réfugiés syriens et les migrants irréguliers monter dans des cars à destination d'Edirne pour la frontière terrestre ou d'Izmir et Çanakkale pour la frontière maritime. Plusieurs sources concordantes affirment par ailleurs que les policiers, les gendarmes, les douaniers et les gardes-côtes turcs ont reçu l'ordre de fermer les yeux sur les activités des passeurs et donc sur ces centaines de personnes qui affluent aux ports de l'Europe. Officiellement, les autorités turques agissent comme si elles étaient dépassées. « Nous ne pouvons plus retenir les réfugiés », dit le porte-parole du parti au pouvoir. « Si la situation à Idlib se dégrade, cet afflux vers nos frontières occidentales continuera d'augmenter », déclare le ministère des Affaires étrangères. Mais dans le même temps, les médias turcs proches du pouvoir diffusent, mettent en scène, même à l'aide de drones, les images de ces migrants en marche vers les frontières. C'est avant tout une campagne de communication. En suspendant officieusement l'accord migratoire signé en 2016 avec l'Union européenne, ou du moins en donnant cette image, l'objectif d'Ankara est bien de semer la panique dans les capitales européennes pour les contraindre à lui apporter un soutien concret en Syrie.
Anne Handlower. L'hiver que nous sommes en train de vivre, ou de ne pas vivre, s'annonce comme le plus chaud en France depuis le début du XXe siècle. C'est ce qu'a annonce Météo France aujourd'hui sur cette saison. Et pour la France, la température moyenne a dépassé de plus de 2 degrés la normale en décembre et en janvier et de plus de 3 degrés en février. Voilà qui tiendra lieu de bulletin météo pour ce soir.